clôture de la séance. Il est 19h42. Vous avez un ordre du jour devant vous. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez ajouter à cet ordre du jour dans le point affaires municipales ou dans le point affaires nouvelles?
Oui, affaires nouvelles, oui.
Vas-y donc, Luc.
Épandage de pesticides pour la tordeuse et épinette.
Pesticides, tordeuse et bourgeon d'épinette.
Je ne vais pas vous tordre un bras, c'est pas le.
Alors, oui, Norm?
Je vais parler de la caisse pop ici à Témiscamingue, la service.
Le service de la caisse populaire.
Ouais.
Dans affaires municipales ou dans affaires nouvelles? OK.
Moi, je l'ai fait informer.
Ben oui, on fait comme. Qu'est-ce pas, Fatim
Rien à en parler. On va faire pareil.
D'autres sujets? Alors, je recevrai une proposition pour l'adoption Marco dénommé. C'est appuyé de.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça, hein?
Toi. André Paquet. Merci, André. Non, Luc, je ne te regarde pas partout.
À bout.
Marco.
Plus qu'à prendre son poids, c'est à bout.
Alors, dans le mot de la préfète ce soir, je vais simplement faire état de. J'ai eu une rencontre du CA de la FQM et il y a deux sujets qui ont été amenés lors de la FQM. Ben, en fait, un sujet que M. Charon m'avait soulevé, une question qu'il avait soulevée sur les compagnies d'assurance, les assurances. Le fait que dans certains milieux, c'est beaucoup plus difficile pour les propriétaires de pouvoir avoir une assurance pour leur propriété. Il y avait des exigences des compagnies d'assurance, des revendications aussi pour l'eau, les systèmes d'eau et tout ça. Alors, on a quand même posé la question à la FQM. On devrait, il doit y avoir des suivis qui vont nous venir de la FQM à ce niveau-là. Par ailleurs, pour les assurances municipales, ceux qui sont assurés avec la MMQ, ceux qui ne sont pas assurés avec la MMQ, les compagnies d'assurance augmentent de façon très importante les primes d'assurance, de 20 à 30 d'augmentation. La MMQ aussi connaîtra une augmentation de la prime, mais beaucoup moindre importance que celle que les autres compagnies mettent en place. Alors, la FQM nous évitait de cette situation-là. Et on a aussi parlé du projet de loi 49, le projet de loi sur le fonctionnement municipal qui est en commission parlementaire actuellement, pour lequel la Fédération québécoise des municipalités fait des interventions. Je vous mentionne simplement que les présentations qui ont été faites au CA de la FQM, j'ai demandé si on avait le droit de le partager avec les élus et je vous prépare quand j'aurai le temps de travailler, je vous prépare un courriel là, avec ces présentations-là et les éléments de discussion qui ont été soulevés au moment du CA de la FQM. Vous aurez donc l'information. Je devrais avoir fini ça pour vendredi. Mais notre président à la FQM s'est présenté en commission parlementaire avec des positions sur la loi 49. Je vous rappelle que c'est la loi qui modifie la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui modifie la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et qui amène diverses dispositions législatives. C'est la loi qui va augmenter tout ce qui est nos obligations éthiques, nos obligations de comportement, nos obligations de tout ce qui touche le comportement des élus. C'est le projet de loi qui va amener beaucoup plus de règles déontologiques qui vont être ajoutées au code d'éthique, qui va entre autres publier la liste des élus qui ont suivi leur cours sur l'éthique et la déontologie. C'est le projet de loi qui va donner beaucoup plus de pouvoir à la commission municipale également. Et moi, je vais vous partager la présentation. Nous, on a passé les commentaires. Nous, je parle de le monde municipal par le biais de la FQM. On a salué les objectifs qui sous-tendent le projet de loi 49, entre autres pour la prévention des conflits d'intérêts, puis pour la prévention des manquements en matière d'éthique et de déontologie. parce que ce sont des éléments qui renforcent la démocratie. Par contre, quand on impose à des élus des devoirs de comportement, politesse, respect à l'endroit des citoyens, etc., et que ces mêmes élus-là sont soumis à des vindictes de la part des citoyens, des commentaires désobligeants, des agressions verbales lors des conseils, qu'est-ce qui protège les élus? Alors, nous, on a rappelé au gouvernement, ce n'est pas dans le projet de loi, mais on a rappelé au gouvernement que la réciprocité devait être la règle. Si on oblige les élus à être polis et adopter des manières polies, c'est une obligation qui doit aussi s'adresser aux citoyens qui se présentent dans les assemblées publiques de conseil municipal ou de conseil de MRC. On a aussi insisté sur le fait que les interventions qui se passent beaucoup dans les médias sociaux sont très peu encadrées et à cet égard-là, très peu pénalisées. On va cibler un élu municipal, mais jamais le citoyen qui fait du bashing sur le dos de son élu. Alors, on a demandé que la réciprocité soit prescrite dans ces situations-là. Si on exige le comportement exemplaire de la part des élus, les citoyens qui interagissent avec les élus doivent aussi avoir un comportement qui est approprié. Et on a également soulevé l'iniquité de traitement entre les élus municipaux et les députés de l'Assemblée nationale en matière d'éthique et de déontologie. Et on a suggéré que, tant qu'à réviser les outils déontologiques pour les élus municipaux, que ce même exercice-là soit fait au niveau de la députation. Alors, clairement, c'est un projet de loi qui fait son chemin actuellement, commission parlementaire. On pense que d'ici la fin de la session actuelle, d'ici la fin de... d'ici l'été, ce projet de loi aura été adopté. Alors, ça, c'était l'information que je souhaitais vous partager relativement au mot de la préfète. Par ailleurs, oui.
Madame,
non,
j'ai une question.
Ah, OK. Il y avait d'autres sujets qui ont été soulevés lors de cette rencontre-là qui portait sur les milieux humides, le règlement sur les milieux humides, les modifications qui seront apportées et tout ce qui était les laboratoires, tout ce qui était l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable. Alors, je vous transmets les informations, comme je l'ai mentionné, mais je trouvais que pour le projet de loi 49, qui est directement dirigé vers les élus municipaux, ça valait la peine que vous en ayez connaissance dès ce soir. Norm, est-ce qu'il y avait une question ou c'est une vieille main levée? OK, c'était une vieille main levée. Alors, sur ce, je vous transmettrai demain, j'ai commis un texte pour nos blogs sur l'insouciance qui peut être la nôtre en matière de face à nos fonctionnements en société et la perte de cette insouciance-là quand on est dans une situation de pandémie. Alors, je vous ferai circuler le texte à partir de le lien pour retrouver ce texte-là demain. Sinon, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021. Vous avez reçu copie du procès-verbal en question. Je vous ai fait mention de la particularité du procès-verbal. On l'a rendu très conforme aux enregistrements qui avaient été, aux enregistrements audio. Alors, vous l'avez reçu. Est-ce que le procès-verbal est conforme aux discussions, Alexandre?
Oui, j'en ferai la proposition.
Proposée par Alexandre. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Vincent, merci. Alors, on passe au point période des questions de l'assistance. Est-ce qu'on a reçu des questions?
Non.
Une question nous a été transmise. Parfait, merci. Donc, le suivi des grandes priorités 2021 de la MRC. Alors, pour le projet Onimiki, on l'avait étudié la dernière fois qu'on l'avait. On est en train d'analyser l'acquisition d'un processus pour les consultations citoyennes, d'un logiciel qui facilite, favorise les consultations citoyennes. Je me souviens plus, c'est au CIA qu'on a parlé. C'est au CIA, hein? Merci. Alors, on a plusieurs consultations citoyennes actuellement en cours, là, celle du PDZA, la politique MADA et politique familiale auront aussi une consultation citoyenne. On essaie d'améliorer nos processus. Dans une situation pandémique, on s'aperçoit que si on veut donner la parole aux citoyens, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va se doter d'un système. Il y en a un qui nous a été soumis, mais on sait qu'il y en a quelques-uns. Donc, on va se doter d'un système pour faire une consultation citoyenne efficace. Et ça va, la première des consultations citoyennes une des premières qu'on veut faire portera sur le projet Onimiki. Alors, pour ce projet-là, il y a toujours des discussions en cours. Simplement vous dire qu'on a eu à rencontrer Hydro-Québec, la conférence des préfets a rencontré Hydro-Québec sur les postes dirigeants ici en région qui sont affichés pour être possiblement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on avait une préoccupation sur les postes en région pour relations avec le milieu, quand la personne responsable des relations avec le milieu est au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'elle doit nous répondre. On trouvait ça un peu difficile. Mais lors de cette discussion-là, on a eu l'opportunité d'entendre les gens nous dire, à la fin de la réunion, là, je disais, et si jamais vous venez nous voir, on vous parlera certainement du projet Onimiki. Puis on dit, les trois personnes, y compris la vice-présidente d'Hydro-Québec, qui ont dit, pas besoin de nous en parler, on le connaît, le projet Onimiki. On le sait, ça circule dans les officines. Alors, juste pour vous dire ça, mais moi, je reste branchée sur la consultation citoyenne. On est en préparation de ça et on veut vraiment l'organiser de façon exemplaire. C'est un must pour ce projet-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Alors, projet d'un système d'incinération des déchets ultimes. On a un peu plus tard, notre projet à nous, on n'a pas de nouvelles du MAMACH, mais un peu plus tard dans la réunion ce soir, on se présente devant le BAP pour la révision du règlement sur la gestion des matières résiduelles. Et nous, dans notre présentation, on intervient sur justement les matières résiduelles et les incinérateurs. Alors, vous avez vu le projet de mémoire qui a été soumis. On va le passer au moment où on va parler des matières résiduelles, mais c'est un élément fort. Vous avez dans ce document-là l'argumentaire qu'on va utiliser pour débattre de notre projet d'incinérateur. Je rappelle toujours que c'est un projet qui est très suivi. Le MAMACH est avec nous, il nous accompagne et ça touche pas seulement notre MRC, mais deux autres MRC, deux autres lieux où ce genre de système-là pourra être mis en valeur. Alors, on nous suit beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Les grandes priorités de la MRC, on parle de système de santé là, dans les services. Système de santé, ça nous rejoint beaucoup là, les coupures qui nous ont été annoncées sur les services obstétriques, coupures de 4 semaines. Vous l'avez en 6.3.1. Quelques-uns d'entre vous avaient posé la question, est-ce qu'on est avisé bien d'avance? Honnêtement, non. On a reçu l'information parce qu'on l'a demandé, parce que des journalistes nous posaient la question. Alors, il y a eu une lacune dans les communications et on l'a souligné au CISAP. Maintenant, c'est une situation qui nous préoccupe au plus haut point, non seulement en raison du manque de personnel infirmier, de main-d'œuvre infirmière qui est critique au Québec, pas seulement dans notre région, mais critique au Québec. Mais aussi en raison des répercussions que ça a sur les services qu'on a chez nous, au Témiscamingue. Là, on a une première coupure annoncée sur les services en obstétrique. On anticipe qu'on va tenter de nous faire passer encore d'autres coupures. Et bien ça, c'est clair que ça ne passe pas. J'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, si vous avez des choses à dire.
Je peux couper quoi d'autre? La retraite des anciens, si je peux te couper. Je suis rendu là.
C'est nos services. C'est nos services à nous. Carmen se demande si ça va parler.
Et moi, j'ai une préoccupation sur les solutions apportées, finalement, dans le moment. Je comprends très bien les agences et le coût. Je suis une qui a questionné ces coûts-là comparativement aux gens qui travaillent sur notre territoire. Par contre, actuellement, c'était une solution. C'est pas une solution à long terme, mais une solution pour permettre peut-être de poursuivre et de garder nos services actuels en place. Actuellement, je ne sais pas qui est revenu sur la décision pour dire que finalement, les agences, on va les...
Les garder ici.
On va les garder.
C'est le ministre de la Santé.
Bon, le ministre de la Santé. J'ose croire que parmi tous ces décideurs-là locaux, on devrait défendre ça haut et fort quand c'est notre solution à nous pour permettre de garder des services ouverts. Je trouve que c'est comme si le problème arrive, puis là, on remet une solution qui déjà est effritée parce que les gens des agences qui ont travaillé, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ils ont besoin de travailler, donc ils ont pris des offres à l'extérieur de notre territoire. Fait qu'on peut nous dire qu'on remet les agences pour donner une solution chez nous. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un dommage qui est déjà causé quand les gens ont déjà accepté des contrats ailleurs parce qu'ils n'en prévoyaient pas ici en région.
Ça s'est passé assez vite, qu'on parle de 8 jours.
Je trouve ça dommage là, que tu sais, on est tout le temps à rebondir sur l'effet que cause ce qu'on nous annonce. On n'est pas capable de prévoir une solution en amont.
De voir d'avance.
Oui. Moi, je pense qu'il me semble qu'il y aurait matière à regarder ça. Et encore une fois, c'est pas la première fois que je l'exprime, j'ai toujours dit, on nous dit, soyez pas inquiets, vous avez, les soins, les services en salle d'opération sont pas coupés. Moi, j'aimerais entendre quels sont les services, est-ce qu'il y a des plages horaires qui sont libres dans notre salle d'opération et est-ce qu'elles pourraient pas être occupées par d'autres clients du territoire?
La salle d'opération opère.
Une salle d'opération qui opère, justement, qui garde une salle d'opération vive et qui donne de l'expérience aussi à tout le personnel qui est en place quand on fait de multiples interventions. Et moi, je réitère encore, puis c'est pas la première fois que je le dis, je sais pas le fonctionnement interne, est-ce qu'il y a des comités de travail, des comités qui se penchent sur ces situations-là à partir du monde qui y travaille. Moi, je pense qu'il peut y avoir des solutions qui sont apportées. Alors, moi, en tout cas, je souhaiterais voir
ça. L'importance de l'implication locale dans l'organisation. Est-ce que vous souhaitez avoir une rencontre avec la PDG du CISAT? Je pourrais lui demander qu'elle ait une rencontre rapidement, étant donné les impacts de ce qui se passe à ce moment-ci dans le réseau de la santé.
Tu sais, encore là, on nous a annoncé une coupure en obstétrique.
Oui.
La solution proposée, actuellement, on utilisait le corridor de l'Ontario, ce qui n'est pas le cas, on ne peut pas le faire. Donc, c'est quand même important. Là, c'est quoi l'alternative pour ces mamans-là? C'est vraiment de vivre aussi dans l'inquiétude. Puis, il y a 8 ou 9 mamans. Là, je pense
il y a 8 mamans qui sont une dizaine de personnes.
Ça, c'est quand il n'y a pas de complications. L'alternative proposée, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'alternative qu'on propose, c'est de s'en aller à Rouen?
C'est ça, actuellement c'est Rouen. C'est Rouen. Ça ne nous convient pas très bien.
C'est ça. Fait que moi, ma question, c'est c'est une pénurie de personnel? Est-ce que c'est une absence médicale présente? Parce que ça prend quand même des médecins qui sont disponibles pour les accouchements. Qu'est-ce qui cause qu'on ferme?
C'est la main-d'œuvre infirmière qui est en pénurie.
Ben moi, je pense que le gouvernement, exactement comme il fait dans le Nord, quand il y a une situation qui est criante et qu'il n'y a pas de solution, il demande aux gens qui ont des possibilités de laisser aller travailler des gens de façon temporaire. Et moi, je pense qu'il y a des solutions qui devraient être pensées d'avance. Pas au moment où arrive la situation telle qu'on nous l'annonce. On nous annonce ça, puis ça vient de se décider. Alors, moi,
prendre d'avance, planifier.
Planifier un peu d'avance ces situations-là. Là.
Rencontrer la PDG, donc, je le sollicite. Je voyais des tables tout à l'heure. Est-ce que c'est nécessaire ou...
Pour se faire dire la même affaire que d'habitude.
Pour se faire dire, mais peut-être pour que vous puissiez dire...
Qu'on puisse trouver des solutions à leur place.
Puissiez parler. Michel Leroy?
Comme je l'ai mentionné tantôt, Claire, je n'accepte pas d'apprendre ça par les médias. J'avais déjà envoyé une lettre à Mme Roy la première fois pour lui dire que c'est pas normal, on est là pour représenter les citoyens, d'apprendre ça par les médias. Là, c'est la deuxième fois.
Oui, tu as raison.
La collaboration, là, ça va dans les deux sens. Quand ils ont besoin de nous, ils veulent qu'on soit collaborateurs puis qu'on soit beau et gentil. Mais d'une manière, on a ça, puis après ça, il faut essayer de répondre aux médias et répondre aussi à la population. C'est gentil. Je trouve ça un petit peu difficile. Je suis d'accord avec Mme. Il y a longtemps qu'on en parle. Toutes les autres sont pratiquement toutes parties ailleurs. Il n'y a plus personne, à ma connaissance, les chefs de programme, ils sont. Les patrons qu'il y avait à Ville-Marie, on les a tous perdus. On essaie de nous faire à cœur le contraire, mais écoutez, essayez de me nommer un chef de programme qui est maintenant à Ville-Marie. Moi, je ne les connais plus. Ils sont tous à Rouen, à Amos et à Val-d'Or, mais surtout à Amos et à Rouen. Je trouve pas ça normal qu'on n'ait plus personne sur place. Donc, j'aimerais qu'on améliore la communication.
Merci, Michel. Bon point. D'autres commentaires, Alexandre?
Oui, mais moi, j'aimerais ça, oui, avoir une rencontre avec Madame la Présidente et Directrice Générale. Je pense qu'à date, quand même, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des points de service des CLSC, elle a quand même démontré une ouverture. Je pense que là-dedans, une chose qui a été décisive aussi, c'est quand on a consulté le personnel infirmier en place pour qu'il participe à trouver des solutions. On a trouvé des solutions, puis on en a trouvé de manière un peu asymétrique là, par rapport à la région, ce qui fait que la particularité du Témiscamingue a été quand même reconnue. Puis je pense que le fait que le personnel infirmier qui est en place ait travaillé aussi, a été consulté pour trouver des solutions, ça a été quelque chose de gagnant dans ce dossier-là. Fait que je crois qu'une rencontre, puis peut-être cette question-là, je pense que comme Michel Roy a dit, au niveau de la communication, d'avoir peut-être un meilleur véhicule de communication pour qu'on apprenne des choses après, puis qu'on se fasse questionner en même temps. Mais de poser cette question-là, comment est-ce que le personnel local, que ce soit tant les médecins ou le personnel infirmier ou d'autres personnels, est mis à contribution pour trouver des solutions? Je pense que c'est une des questions qu'il faudrait poser.
C'est bon. Alors, je vais solliciter une rencontre rapidement avec Mme Roy. D'autres commentaires? Michel, tu avais encore la main levée, c'est-tu ta vieille main ou c'est-tu un nouveau commentaire? Norm?
Oui, pour rencontrer Mme Roy encore, juste pour parler, on n'a pas besoin, on appelle, ça prend de l'action ici. J'écoute tous mes confrères et consoeurs qui s'assirent autour de la table. Il n'y a pas de communication avec le CISAT. On avait ça avec les DG de Jardin et les autres. Je pense que Mme Roy sait les problèmes. On ne veut pas juste elle venir encore pour écouter. Viens avec des solutions. Comment on peut travailler ensemble pour changer, pour avancer des choses ici dans le Témiscamingue? Merci.
Merci, Norm. On va faire les démarches pour avoir une rencontre avec Mme Roy. On va faire les démarches aussi, comme vient de le dire Norm, qu'on n'ait pas juste un énoncé de problème, mais c'est quoi les pistes de solutions qui sont envisagées, puis comment on peut bonifier ou comment on peut contribuer à ces solutions-là. Je pense que c'est important. Des solutions à court terme.
Peut-être rajouter aussi, et ce serait peut-être bon de ne pas trop... et mentionner les questionnements qu'on a pour pas qu'elle réussisse avec une idée déjà toute préconçue, qu'on fait juste écouter et qu'on n'a pas rien à discuter.
Bon point. Carmen?
Moi, je suis d'accord avec Mme Leroy, mais des fois, j'aimerais ça qu'elle soit accompagnée de la responsable de notre établissement ici, puis d'entendre sa voix à elle aussi.
Et elle n'est toujours pas en poste, d'ailleurs.
Voilà. C'était ma question. C'est vrai, qui? Hein?
Le syndrome de la chaise vide, là, ça n'a jamais fait de
J'aime beaucoup la phrase. Alors, d'autres commentaires? Sinon, je passe au point rencontre avec le centre de services scolaires. On est là-dedans?
C'est 12 points.
C'est le 6.3, 6.3.1, c'était soins de santé, puis 6.3.2, c'était commission scolaire. Rencontre avec le centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue. En fait, quand les commissions scolaires ont été abolies, les représentations qui avaient été faites par le milieu municipal, parce qu'il y a quand même des incidences majeures sur la vitalité de nos milieux, il avait été prévu qu'il y ait des rencontres systématiques du conseil d'administration des centres de services scolaires avec les conseils des MRC. Donc, je m'apprêtais à lancer l'invitation au niveau du centre de services scolaires. Est-ce que c'est une rencontre qui vous semble importante? Puis à quel moment on la planifierait, si c'est important? Là, on sait qu'on est toujours entre deux chaises. Ils vont-tu fermer des écoles l'année prochaine? On a lancé quelques perches pour avoir des informations. On n'a pas de nouvelles comme telles. Rencontrer le centre de services scolaires, est-ce que ça vous apparaît important à ce moment-ci? On ne posera pas la question aux membres du conseil qui sont dans le réseau scolaire. On va les ménager là-dessus. Si vous avez peu d'intérêt, je vais quand même entrer en contact avec le DG de la commission scolaire pour voir de quoi il retourne. Je vous tiens informé. Mais je vous rappelle que c'est une démarche qui est incluse dans la création des centres de services scolaires, de rencontrer les conseils de MRC.
On pourrait peut-être aller rencontrer au niveau du CA.
Au niveau du CA?
Si il y a quelque chose d'important, on planifie la rencontre.
Puis, on va essayer d'avoir quand même de l'information à vous livrer là, au moment de notre lac à l'épaule du 8 mai prochain. Ça va pour ce point-là? Alors, on passe au point suivant. Les enjeux ponctuels. Je vais passer 7.2 à Daniel. Tout de suite, je reviendrai avec la gestion de la COVID. Oui.
C'est sur le complexe des eaux profondes. Durant le mois de mars, fin mars, début avril, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une invitation à la communauté autochtone de Wenoé. On attend toujours une réponse de eux. C'est sûr qu'on les a envoyé le document. On veut essayer de les rencontrer. On va voir si on est capable de discuter avec eux autres. Demain matin, on a une rencontre avec Desjardins pour le Fonds des grands mouvements. On est en train de finaliser le dossier avec eux autres. Demain matin, trois membres du CA du complexe des eaux profondes, leur rencontre intime avec eux autres. Et puis, on est en train de finaliser le dossier. C'est à peu près juste ce qui s'est passé pour l'instant.
Merci.
Monsieur Ouellet,
la piscine, au centre,
qu'est-ce
que la piscine au centre d'Autorie, est-ce qu'elle est ouverte ou fermée?
Elle est ouverte.
Non.
Elle est ouverte.
Je suis Lalonde, on est venu se venir.
OK, merci. C'est bon. Alors, je reviens sur le point 7.1, enjeu ponctuel, gestion de la COVID. Depuis la semaine, dès qu'on l'a su, on vous a contacté pour vous informer là, des nouvelles directives. La région, c'est interdiction de circuler dans notre région depuis la dernière. Et c'est sorti ça jeudi, puis vendredi, le premier ministre Ford fermait, confinait l'Ontario. Dans le contexte, actuellement, comme ça a été mentionné, là, les barrages routiers sont les points de contrôle. Au niveau de l'OPP, il y a des points de contrôle en tout temps, mais au niveau du Québec, de 6 h le matin à 19 h le soir, il y a des points de contrôle fixes. et de 19h le soir à 6h le matin, c'est des points de contrôle aléatoires mobiles. Et il y a toujours un couvre-feu au Québec, 21h30 à 5h le matin. La situation au Témiscamingue est toujours... Je regarde les nouvelles d'aujourd'hui qu'on a généralement, mais la situation au Témiscamingue est toujours sous contrôle. Il y a moins de 5 cas actifs sur le territoire. Alors, s'il y a des questions, commentaires là-dessus, Marco et M. Drouin.
Oui, je n'ai rien compris là-dedans. Ils ferment le territoire et ils nous disent qu'il n'y a pas de barrage. L'Ontario fait des barrages, paf, on fait des barrages. Pourquoi? Les OPP n'étaient pas capables de le faire seul, ça prenait absolument de la SQ du Québec. C'est ça que je me demandais comme question. Ils veulent se parler quand il n'y a pas de char?
L'information qu'on avait jeudi, puis là, je vais te dire l'information de jeudi, OK? On discute avec la SQ, puis on dit il n'est pas prévu, on interdit la circulation, ça va être des vérifications aléatoires, OK? Ça, c'est jeudi. Vendredi, le premier ministre Ford annonce la fermeture de l'Ontario. Et nous, ici, c'est notre santé publique qui a demandé que la circulation en région soit bannie. Puis, dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont eu l'information comment ça allait fonctionner au niveau de l'Ontario et quelle était la position du Québec en rapport à ça. Puis, lundi le matin, c'était opérationnel, c'était en fonction. Je pense que notre territoire ici, on est préoccupé de la situation sanitaire en Ontario. C'est une situation qui est... beaucoup plus dégradée que celle qu'on connaît au Québec. Mais actuellement, c'est plus Ottawa, Gatineau, Hawkesbury qui sont les grandes préoccupations. Il y a une circulation très, très, très importante dans ces régions-là par rapport à ici. Ici, c'est vraiment de 6h le matin à 19h, puis des contrôles aléatoires autrement. Ça s'adresse aussi à la population ontarienne qui circule sur notre territoire. Ça, c'est important de le rappeler. Les directives de santé publique, puis on les a partagées, là, le feuillet qui dit c'est quoi les exceptions. Les gens qui ont une propriété ici peuvent venir à leur propriété pour l'entretien de la propriété. C'est le printemps, puis il y a souvent des entretiens à faire dans des propriétés de villégiature. Mais les personnes qui viennent ici sur le territoire, et là, Lynn me fait signe que tu avais une question?
Fini, mais je vais avoir une question, Claire, concernant l'entretien de propriété, parce que
il y a beaucoup
je vais, questions je vais vous exposer la situation.
Il y a, alors, sur l'entretien de propriété, les personnes ne doivent pas circuler sur le territoire, se présenter dans les commerces ou fréquenter les restaurants. C'est actuellement la directive de santé publique. Question? Il y a Patricia. Oui, Patricia.
Oui. Est-ce que tu m'entends, Claire?
Oui, on t'entend très bien.
OK. Bien, c'est justement, dans le fond, c'était la même question que Lynn concernant c'est quoi, de préciser c'est quoi l'entretien. Parce que nous, à la NIEL, j'avoue que ça n'a vraiment pas fait de différence. Même s'ils se sont, il y en a qui se sont présentés au bureau municipal aujourd'hui pour des permis de rénovation, puis de la construction, puis... C'est quand, je ne comprends pas, c'est quand tu viens construire, c'est pas, tant qu'à moi, c'est pas entretenir. On s'entend que si tu es en train de construire, tu vas avoir besoin de matériaux. Ça va. Puis là, ben, ça répond au gouvernement municipal. Ben, on a été vaccinés, nous autres, on peut se promener. Alors, en tout cas, là, c'est, ça n'a pas fait de différence. Vraiment, ici autour, là, il y a beaucoup d'Ontariens.
Moi, mardi, on a posé la question. C'est-tu cette question-là que tu avais
Bien, on commence à avoir une problématique avec les propriétaires de camp de chasse qui viennent de l'extérieur de la région.
Les propriétaires de camp de chasse ne doivent pas circuler sur le territoire. C'est clair, ça? C'est clair, c'est très clair. Ce n'est pas une propriété de villégiature. Puis ça, François, le lieutenant Côté peut répondre à ça facilement. Les propriétés de villégiature sont des propriétés recensées, là, conformes. Patricia, la question de rénovation puis de travaux, je vais la poser, parce que quand ils nous ont dit des travaux, tu viens, tu rebranches l'eau, tu vérifies qu'il n'y a pas eu de dégâts durant l'hiver, tu viens, c'est des travaux normaux à faire au printemps dans une propriété de villégiature, mais de la construction, puis des permis de construction puis de rénovation, on est ailleurs, fait que je vais poser la question. Monsieur Charon, vous avez une question?
Oui. En tant que municipalité, on peut-tu exiger autre chose que la santé publique ou faut suivre strictement les recommandations de la structure de la. La cour publique.
Nous, on n'a pas. Nous, le milieu municipal, autant la MRC que les municipalités, on n'a pas plus de pouvoir. C'est actuellement, là, c'est un décret de situation d'urgence sanitaire qui fait en sorte que la santé publique peut avoir des exigences. Puis, ils avisent, c'est la Sûreté du Québec ou les corps policiers qui sont chargés des suivis puis de la surveillance. Nous, comme milieu municipal, on n'a pas le pouvoir d'être plus sévère que ce que le décret demande et ce que la Sûreté du Québec peut surveiller.
Je veux juste vous donner un exemple. Nous, on administre le dépanneur à la force, la municipalité, puis cette semaine, j'ai reçu un téléphone d'une des caissières. Il y avait des gens qui ont été, puis il y avait... J'ai un enfant de 10 ou 12 ans qui toussait beaucoup. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle faisait avec ça. J'ai dit, moi, je ne la laisserai pas rentrer.
Exact. Ça peut le faire. Parce qu'il y a une situation particulière, ça peut le faire. Ça, elle peut le faire. Puis même les personnes qui sont avec l'enfant, parce que la contamination est très grande. Ça, c'est dans les mesures de distanciation et de les mesures sanitaires et de distanciation physique. Ça, le commerce peut empêcher les gens d'entrer. C'est fait.
Ces gens-là, ils venaient de l'extérieur, de la région de Gatineau. Je crois que c'était en zone rouge.
C'est sûr que, oui, vous auriez pu appeler la Sûreté du Québec, clairement. Mais c'est sûr que, par exemple, dans les restaurants, il faut qu'ils demandent d'où les gens viennent. Et les coordonnées pour les rejoindre. Puis, ils ont le droit de vérifier l'adresse des personnes qui s'assoient dans le restaurant.
S'applique-tu à notre dépanneur?
Oui. Il y a un café dans votre dépanneur? Il n'y a pas un café dans votre dépanneur?
Ils peuvent prendre un café, oui. Oui.
Bien, dans le fond, si eux autres, ils pourraient, étant donné la situation sanitaire, la préoccupation pour une situation concrète, un fait concret, une personne qui tousse, un enfant qui tousse beaucoup, il pourrait demander à ce que la personne ne se présente pas. D'ailleurs, si vous vous souvenez, au printemps, dans les pharmacies, tu ne pouvais pas entrer si tu avais des symptômes grippaux. Tu ne pouvais pas te présenter dans les commerces. Alors ça, oui, le commerce peut le faire parce qu'il y a une situation factuelle, concrète, de symptômes. Puis... ça, on va quand même faire un suivi là-dessus, M. Charon, là, on va donner des indications.
Parce qu'on a, pas beaucoup, mais on a certains gens qui ont des propriétés qui viennent de l'extérieur. Et là, les personnes du camping, là, le camping commence à dégeler. Les gens commencent à dégeler eux autres.
C'est bon. Je vais demander, parce que le camping, ce n'est pas une propriété de villégiature, je vais quand même demander, on va faire une intervention auprès de la Sûreté du Québec pour une surveillance là-dessus. Patricia a baissé sa main, il y avait Alexandre?
Oui, peut-être une situation aussi que moi j'ai une question, c'est à Moffett, il y a beaucoup de villégiature, puis je peux compter peut-être 8 à 10 Ontariens qui vivent à l'année à Moffett, qui ont des plaques d'Ontario. Ils vivent là à l'année, ils ont des adresses chez leurs enfants en Ontario, ils veulent conserver un lien pour le système de santé, tout ça, mais dans les faits, ils vivent 100% du temps à Moffett. Ce n'est pas négligeable, là. Peut-être 8 ou 10. Fait que, je ne sais pas, eux autres,
J'ai posé la question avait la question.
J'imagine qu'à l'ANIEL aussi, ça doit être le cas des gens qui sont là à l'année aussi.
C'est les gens qui peuvent démontrer qu'ils sont là depuis longtemps. On dit aux gens, tu jettes ça ta facture d'épicerie, là, mais tu as une facture d'épicerie d'essence depuis plusieurs mois. Elle m'a fait. Regarde, c'est démontré. OK? c'est sûr que les gens qui ont une plaque d'Ontario vont être plus ciblés si la surveillance policière aléatoire les voit. Mais en même temps, s'ils peuvent faire la démonstration qu'eux sont installés depuis X nombre de mois, puis qu'ils sont là à l'année finalement, là, ben, là-dessus, je pourrais pas.
C'est un contrôle facile parce que, étant donné que ces enfants restent en Ontario, tu peux aller les visiter, tu as beau avoir acheté ta grosserie depuis 6 mois, mais tu es passé ton week-end à Ottawa, tu reviens, tu es aussi dangereux. Là.
Ben, c'est vrai c'est pour nous aussi. Ah, oui. Regarde, moi, je ne vais pas chez mes enfants qui sont à Longueuil ou à Cardiaque pour ça.
Là, c'est que le policier qui l'arrête, là, pour lui, ça va être difficile.
Oui, ça, c'est vrai. Mais là, ça les concerne. Des situations effectivement pas faciles. Mais être capable de faire la démonstration, il y avait une autre question. Michel Roy.
Est-ce qu'on sait si la SQ fait des interceptions de temps en temps, s'ils sont plus vigilants depuis qu'il y a eu une petite éclosion qui aurait pu devenir une grosse éclosion dans un des commerces de Ville-Marie? Est-ce qu'ils sont plus vigilants depuis ce temps-là? Puis l'autre chose, est-ce que toi, avec Claire, avec le 6, il te parle du nouveau variant indien qui inquiète, je pense qu'il inquiète beaucoup, beaucoup de monde. Là. Oui. Le ministre Dubé en a parlé. Est-ce que tu n'entends parler de ce variant-là?
Actuellement, il y a... là, je vais répondre à ta première question. Oui, la surveillance est accrue autour de certains lieux où, qui ont donné lieu à une éclosion. Oui, la surveillance est accrue, beaucoup plus serrée, beaucoup plus sévère. L'autre question sur les variants... le Québec a annoncé qu'il y avait un premier cas de variant indien au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, les dernières éclosions, puis particulièrement au Témiscamingue, l'éclosion qu'on a connue, pardon, ce n'était pas des variants. C'était le bon vieux virus de base.
OK, merci.
Mais il y a eu des variants sud-africains en Abitibi-Témiscamingue et actuellement, il y a une analyse sur 5 cas, possiblement variants britanniques. Le CISAF font, c'est. Je dois dire que sur ce côté-là, la santé publique, s'ils font une job là, vraiment, vraiment remarquable. Ça va pour tout le monde, situation, M. Drouin?
En tant que producteur, c'est un besoin essentiel. Quand même plusieurs producteurs de médicaments qui posent des placettes pour aller en Ontario parce qu'ils vont faire affaire là. On a le droit d'y aller, mais ça prend quoi pour passer si on se met interpellé? Ça prend-tu les cartes de producteur? Ça prend-tu une feuille? Si,
c'est en tant que producteur, c'est pour activité professionnelle. Alors, ça ne vous prend pas une feuille ou une carte de producteur. Vous pouvez avoir votre carte de producteur pour le démontrer que c'est votre activité professionnelle. J'étais sur le point de contrôle lundi, puis il y a un camion avec des animaux qui passait pour s'en aller à l'encan, puis ils ont passé. Mais il faut être capable de démontrer que c'est un déplacement requis par une activité professionnelle.
Oui, mais c'est ça. Ouais. Si, mettons, si je veux acheter des morceaux pour une machine, j'aurais pas de verre quand il y a de moins. Là,
non, mais vous pouvez avoir votre carte de producteur, effectivement.
Ça prend une carte de producteur, OK.
C'est sûr qu'on ne traîne pas la machine hein, quand on veut chercher des pièces, mais faire la démonstration, peut-être dire dans quel commerce vous allez, puis pour telle ou telle chose... Mais pour activité professionnelle, les déplacements interprovinciaux sont permis.
Et Mario, il a juste à garder son seau de fermier correct. Il
va pas rentrer dans le magasin.
C'est une autre question.
Non, d'après.
Alors, on va passer au point suivant. Je vais